Géopolitique.
Toufik Benaïchouch.
La guerre au XXIe siècle, comment se mène-t-elle? Comme précédemment, les technologies numériques, les robots, les drones, l'émergence de nouveaux ennemis également, et donc aussi de nouvelles stratégies, modifient déjà la manière dont les hommes se font la guerre. Pour répondre ou pour trouver des pistes à ces questions, nos invités, tout d'abord Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez publié récemment « Le Président et la Bombe » aux éditions Edil Jacob en 2016, coécrit avec le journaliste Jean Guinel, une enquête passionnante sur les coulisses du pouvoir nucléaire. Jean Guinel, justement, donc, vous êtes journaliste, vous, depuis 1972, vous êtes spécialisé dans les questions stratégiques et de sécurité, vous êtes également l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur ces thèmes, spécialiste des questions militaires et de renseignement, vous avez été auditeur de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, professeur associé à l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, de 99 à 2005, et vous êtes journaliste au Point, vous êtes donc co-auteur, je le disais précédemment, avec Bruno Tertrais, de Le Président et la Bombe, une enquête donc passionnante, avec en sous-titre Jupiter à l'Élysée. Et puis Olivier Kempf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de géopolitique et de stratégie. Vous avez travaillé sur les questions de sécurité de l'ère euro-atlantique et tout particulièrement de l'Alliance Atlantique et de la géographie de France. Vous dirigez la collection Cyberstratégie chez Economica. Vous avez suivi également les questions de stratégie générale et d'économie de défense et vous enseignez la cyberstratégie à l'IRIS, à l'École de guerre et à l'IEP de Lille. Et vous dirigez également la lettre d'analyse stratégique, la Vigie. Alors messieurs, première question. Traditionnellement, on connaissait trois corps dans une armée de terre, une armée de l'air, une marine. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il faut songer à d'autres armées, Bruno Tertrais?
C'est effectivement toujours le cas dans la plupart des armées, mais attention, d'abord, il y a déjà des armées qui ont évolué dans un sens ou dans un autre, soit pour créer de nouveaux commandements, pas forcément les nouvelles armées, mais les nouveaux commandements, justement, espace, cyberespace, forces spéciales, etc. Soit des armées, et ça c'est le cas dans certains petits pays dans lesquels on a fusionné tout ça, tout simplement, pour des raisons de simplification, d'interarmisation, pour que les armées travaillent mieux ensemble, et puis aussi parce que les armées sont beaucoup plus réduites en nombre que ça a été le cas, en tout cas pour les pays occidentaux, il y a une cinquantaine d'années. Et d'ailleurs, sans vous révéler son nom, je peux vous dire que j'ai discuté il y a quelques semaines avec un ancien chef d'état-major des armées françaises qui me disait que selon lui, on devrait faire la même chose en France. Je ne crois pas que ça arrivera, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une tendance un petit peu montante.
Jean Guinel, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Il faut inventer de nouveaux commandements?
Ben, écoutez, je crois que l'organisation des forces armées dans les grands pays est assez classique en général. C'est-à-dire vous avez évoqué l'armée de mer, l'armée de terre, l'armée de l'air. On peut évoquer aussi des formes de police militaire comme la gendarmerie nationale qui sont des armées dédiées au maintien de l'ordre ou à la police judiciaire. Vous voyez qu'ils sont une forme d'armée un peu différente. Et puis, personnellement, quand je regarde tout ça d'assez près, je me dis qu'on a réellement une quatrième ou une cinquième armée qu'on pourrait appeler l'armée des ombres, c'est-à-dire une armée aujourd'hui offensive, efficace, pas toujours autant qu'il le faudrait, mais assez efficace, et qui est constituée par les services secrets, c'est-à-dire ceux qui mènent des opérations offensives, ceux qui vont chercher du renseignement stratégique, soit en espionnant les forces adverses, soit en patrouillant sur les réseaux d'information numérique, et en y agissant également. Donc je crois que les choses évoluent considérablement, et il ne faut pas négliger le fait non plus que, par exemple, quand on prend ce qu'on appelle la dimension aérienne, toutes les armées aujourd'hui ont des moyens aériens. Ça vaut pour l'armée de terre, ça vaut pour la marine. Les choses se mélangent un petit peu. Et voilà. Simplement, les modes de combat sur les terrains, c'est-à-dire dans les éléments, l'air, l'eau et la terre, ces modes de combat, ces modes d'action sont très spécifiques. Et les hommes et les femmes qui les conduisent, ces opérations, ont besoin de techniques et de procédures et de tactiques qui sont évidemment totalement différentes. Faire la guerre sous la mer avec un sous-marin, c'est pas la même chose que la faire dans le désert du Mali.
Olivier Kempf.
Votre question est une question, j'allais dire, d'organisation. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'agir dans le cyber ou dans le renseignement ou dans des forces spéciales? Évidemment. Faut-il pour autant avoir une organisation, c'est-à-dire une armée, c'est-à-dire quelque chose qui est autonomisé par rapport aux trois autres armées et sous la direction du chef d'état-major des armées, je crois que c'est beaucoup trop précoce. Ce qu'on voit, c'est que les trois armées existantes ont leur logique, et la logique, c'est celle du milieu naturel, terre, air, mer, on vient de le rappeler, et ce milieu naturel emporte d'une part des capacités, des équipements, d'autre part des modes de combat, des modes opérationnels qui sont tout à fait spécifiques. Et puis après, on s'aperçoit que, et Jean Guinel le rappelait, que l'on a tout un tas de nécessités transversales qui sont au-dessus et qui sont communes. On peut parler de renseignement, on peut parler de forces spéciales, on peut parler de cyber, on peut parler de l'action dans l'espace sidéral au travers des satellites, etc., et de la communication. Donc tout un tas de choses qui sont dans ce que j'appellerais un gigantesque appui opérationnel qui sont partagées par les trois armées. Et c'est pour ça que vouloir identifier une quatrième armée cyber me semble aujourd'hui pas tout à fait nécessaire. Je dis aujourd'hui, je ne préjuge pas de ce qui arrivera demain. Mais aujourd'hui, je n'y crois pas trop.
Pourtant, Bruno Tertrais, il y a une vraie guerre qui se joue dans le cyberespace, non ?
Oui, bien sûr, mais attention, le cyber, c'est pas seulement la guerre, c'est l'espionnage, c'est la manipulation, c'est le cinquième espace de bataille, si vous voulez, après terre, mer, air et espace extra-atmosphérique, mais à la différence des quatre premiers, ce n'est pas un espace physique. Donc, pour moi, il est raisonnable de considérer comme le cinquième espace de bataille, mais par nature, même si, bien sûr, ce qu'on fait dans le numérique peut avoir des conséquences physiques, on pourra y venir, c'est quand même quelque chose de fondamentalement différent. On ne raisonne pas de la même manière, on ne prend pas les mêmes risques physiques. Si on fait partie de l'armée du cyber, si vous voulez, on prend quand même pas les mêmes risques physiques que quand on est sur un théâtre d'opération.
Alors, une objection, si vous permettez, avec l'utilisation de l'informatique avec des hackers de génie, on peut par exemple paralyser toutes vos centrales électriques ou nucléaires.
Ah simplement, il va falloir que vous nous expliquiez comment vous faites parce que pour l'instant personne n'est arrivé.
Non, mais par exemple avec des virus. Je pense par exemple au cas entre l'Israël et l'Iran. Israël, on le sait, en injectant un virus, a ralenti considérablement le programme nucléaire iranien.
Qu'on puisse avoir des effets physiques sur des infrastructures civiles ou militaires à partir de simples attaques informatiques, souvent très difficiles à réaliser, c'est indéniable. De là à ce que vous puissiez, depuis votre studio, avec votre clavier d'ordinateur, avec quelques virus ou robots, susciter un ensemble simultané de pannes majeures dans un pays exactement à l'endroit que vous vouliez, au moment que vous vouliez, on n'y est pas encore. On y viendra peut-être, mais on n'y est
possible,
pas encore.
C'est possible, à long terme peut-être.
Je pense que c'est possible à long terme.
Olivier Kemp, votre avis sur ce dernier point ?
J'appuie assez fortement ce que vient de dire Bruno. J'aime pas la notion de guerre dans le cyber. Il y a une conflictualité, oui, mais aujourd'hui, on n'a pas franchi ce qu'on appelle le seuil de létalité. C'est-à-dire que, traditionnellement, les analystes, les politistes, les stratégistes expliquent que le seuil de la guerre, c'est 1000 morts par an. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple d'un conflit cyber qui a occasionné 1000 morts et même un mort. Je veux dire, voilà. Donc, qu'il y ait une conflictualité dans le cyber, qu'il y ait plusieurs formes incontestablement, on distingue trois types de cyberagression. La première, la plus courante, la plus massive, c'est l'espionnage. Et l'intérêt de l'espionnage, c'est que ça soit secret, que ça soit tu, que ça soit opaque. C'est-à-dire que cette conflictualité dans le cyber qui fait rage, elle est finalement inconnue de la plupart d'entre nous. La deuxième, qui est plus visible, c'est celle de la subversion, c'est-à-dire on va utiliser le cyber pour faire des pannes ici ou là, de façon à faire du bruit et modifier les esprits. Ça a été l'affaire de TV5 Monde l'an dernier, ça peut être Sony Pictures, ça a pu être l'action de l'armée électronique syrienne qui avait piraté un compte Twitter, qui avait provoqué une chute remarquable de Wall Street de 15% en quelques secondes. Donc voilà, là on est dans de la subversion. Et puis la troisième, c'est celle qui est la plus fantasmée, mais qui est finalement une des moins pratiquées pour des raisons assez simples. C'est celle du sabotage. Et pourquoi c'est peu pratiqué ? Parce que soit vous avez des armes, j'allais dire, de tout venant, allez, je fais tomber un site ou je mets une fausse page sur le site, mais ça dure quelques heures, quelques jours au maximum, mais si vous voulez, ça n'affecte pas le fonctionnement. Et dès que vous voulez aller à quelque chose de plus compliqué, ça nécessite énormément de moyens. Et donc là, on est un peu dans le fantasme du dernier James Bond, où le gars avec une petite équipe de génie au fin fond de l'Indonésie réussissait à mettre à feu et à sang Londres. Ça, c'est du cinéma, c'est Hollywood, ça n'existe pas, on n'a pas d'exemple réel de choses comme ça. Vous citiez Stuxnet, c'est-à-dire cette attaque israélo-américaine contre une centrale nucléaire de recherche, donc quelque chose de très particulier. L'ensemble de l'opération a duré 6 ans. Ils ont mis 4 ans avec des millions et des millions et des millions de dollars. soir, d'accord, avec toute la puissance américaine et israélienne, juste pour une simple attaque sur un seul réacteur. Donc mettre à bas un pays, ça arrivera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais aujourd'hui, non.
Alors, puisqu'on parle de ce genre de guerre, Bruno Tertrais, une question simple. Vous êtes un spécialiste de la puissance atomique, de la bombe nucléaire et du pouvoir que ça engendre. Au cours des guerres auxquelles on assiste aujourd'hui, enfin ces dernières années, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une bombe nucléaire encore ?
Bien sûr.
Excusez-moi, hein, c'est une question un
mais
peu
vous n'avez théâtre, pas à vous excuser, toutes les questions sont légitimes. Mmh. Écoutez, malheureusement, de la part de certains des pays qui disposent de cette arme, même si on ne l'utilise pas physiquement, on peut l'utiliser politiquement. De deux manières. D'abord, parce que ça donne confiance en soi, la bombe. Et que la Corée du Nord, par exemple, s'est mise à être extrêmement provocante à partir de 2010. Dès lors qu'elle commence à couler un bateau sud-coréen ou à bombarder une petite île voisine de son territoire, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. De même, le Pakistan, après s'être doté de l'arme atomique en 98, s'est dit, maintenant, l'Inde ne me tapera pas dessus puisque j'ai l'arme atomique. Donc, il a commencé à procéder à une série d'infiltrations au Cachemire, dans des territoires contesté. Il est a priori, en tout cas à mon sens, il est probable que tout ça ait un lien avec justement la possession de la bombe. Donc premier point, ça donne confiance en soi. Deuxième point, ça peut être utilisé comme instrument de chantage, de coercition, d'intimidation. Et c'est ce que fait aujourd'hui Vladimir Poutine et le pouvoir russe dans son ensemble. Puisqu'il n'y a pas que lui, il y a un certain nombre de déclarations, ou plutôt un très grand nombre de déclarations depuis plusieurs années, désormais, qui laissent à penser que la Russie souhaite à intimider l'Europe, peut-être la diviser aussi, et l'Alliance Atlantique dans son ensemble, en utilisant, en faisant peur justement, en parlant de l'arme atomique. Donc c'est plutôt comme ça qu'elle est utilisée, davantage que physiquement, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un problème.
Alors Jean Guinel, vous venez d'entendre Bruno Tertrais, ça sert à dissuader, mais est-ce que vraiment cette dissuasion est efficiente lorsqu'on regarde les conflits en Syrie, au Yémen, en Ukraine même ?
La bombe atomique, elle sert beaucoup à dissuader ceux qui la possèdent de vous attaquer avec ce moyen-là. Pour les gens qui n'ont pas la bombe et qui vivent des moyens conventionnels, la dissuasion aurait un effet s'ils menaçaient ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Et on parle aujourd'hui dans une situation historique tout à fait inédite pour la France, puisqu'elle subit des attaques terroristes à répétition. Et on voit bien que, d'une part, ces intérêts vitaux ne sont pas touchés, c'est blessant, c'est terrible, c'est affreux, c'est épouvantable, ça tue et ça massacre. Mais la France, en tant qu'État, en tant que nation, en tant que quantité politique et dans son essence même, n'est absolument pas menacée. On peut même penser dans un sens que ça la renforce. Donc la bombe atomique n'est pas utilisable contre des gens qui pratiquent le terrorisme, par exemple. Et c'est pour ça que la question de la dissuasion est extrêmement importante, et on va en avoir une illustration rapidement, puisque les Britanniques vont en débattre la semaine prochaine. Donc on a la dissuasion, c'est un grand sujet d'actualité, et c'est un sujet dont on doit discuter. Je vous remercie d'aborder le sujet, parce qu'à mes yeux, et c'est un peu le sens du livre qu'on a fait avec Bruno, on a la volonté, en tout cas pour ce qui nous concerne, qu'il y a un véritable débat sur cette question, c'est-à-dire que des gens en parlent et que les citoyens, nos concitoyens, soient au courant de ce qui se passe. Et voilà. Ça, c'est une politique de défense qui ne se conçoit pas dans l'indifférence.
Très bien. Olivier Kempf, on vient de le voir avec nos deux interlocuteurs, c'est une arme de dissuasion, mais j'ai l'impression, quand il s'agit d'État à État, un duel entre deux États, lorsqu'on a pour mission de combattre le terrorisme ou alors, par exemple, de se battre contre Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie, ça sert à quoi une bombe ? Est-ce que ça peut servir à quelque chose ou pas ? Une bombe nucléaire ?
Alors, je crois que ça a profondément changé la grammaire stratégique et que depuis qu'il y a la bombe, ceux qui en sont titulaires et ceux qui bénéficient d'un parapluie nucléaire, eh bien, ne font plus ce qu'on appelle des guerres conventionnelles ou des guerres qu'on disait autrefois symétriques. C'est-à-dire que cette guerre dont nous avons l'habitude et qui a profondément marqué notre imaginaire, et notamment avec les deux dernières guerres mondiales, mais en regardant toute l'histoire militaire de la France, cette guerre de grande masse contre grande masse, finalement, à cause de la dissuasion nucléaire, nous ne l'envisageons plus telle quelle. Bon. Mais paradoxalement, la loi de la stratégie, c'est de contourner toujours les positions de l'adversaire. Et donc, pour contourner la position de l'adversaire, et là, pour contourner la position de la dissuasion, on va utiliser d'autres moyens. C'est ce que les Russes ou les Chinois appellent sous la notion de conflit non linéaire ou de guerre hors limite, ou c'est ce que les djihadistes font à travers tous leurs attentats. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la conflictualité, c'est-à-dire la lutte politique, demeure, et on va trouver d'autres expressions que la guerre traditionnelle, qui était extrêmement violente. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les bilans humains des deux dernières guerres mondiales. On sait que maintenant, ces guerres-là, elles sont dramatiques, eh bien, on va utiliser d'autres moyens. Alors, quand vous regardez ce qui se passe en Irak ou en Syrie, c'est toujours dramatique. Il y a toujours des centaines et des milliers de morts. Mais c'est une autre forme de guerre, et pour reprendre le titre de votre émission, je crois qu'il y a un couplage, si vous voulez, entre la dissuasion d'un côté, effectivement étatique, et vous avez raison de le mentionner, et puis d'autres formes de guerre où là, vous allez avoir des acteurs non étatiques, mais aussi des acteurs étatiques qui vont s'affronter avec d'autres moyens.
Oui, notaire, très rapidement, on est d'accord, quand c'est un affrontement entre inter-États, la bombe a son utilité, elle est même source d'existence et de protection, mais quand c'est pas le cas dans d'autres guerres, ça sert à rien.
Absolument. De même que si vous avez dans votre armoire à pharmacie un médicament contre la toux, eh ben ça ne sert à rien pour si vous avez mal à l'estomac. Mais attention, je voudrais quand même vous faire remarquer que dans le livre que vous avez bien voulu citer, justement, qu'on a fait avec Jean Guinel, on cite un entretien qu'on a eu avec le chef d'état-major des armées qui dit attention, si Daesh un jour devait se transformer en quasi-État, et si cette entité avait la possibilité de menacer les intérêts vitaux français, alors,
y compris avec une bombe sale, par exemple.
Franchement, alors ça, une bombe sale, ça m'étonnerait que ça menace les intérêts vitaux, ça fait très peur, mais c'est pas de la destruction de masse. Alors, dans ce cas-là, Daesh pourrait devenir redevable de la dissuasion, mais c'est de la logique, si vous voulez. Et puis, heureusement, je voudrais rassurer les auditeurs, on n'en prend pas le chemin pour l'instant, mais je pense que le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a raison de soulever la question.
Alors, dans cette optique, est-ce que, par exemple, la France envisage d'augmenter son potentiel nucléaire ou ce dont elle dispose suffit amplement ou...
Ah, écoutez, à mon sens, ce dont elle dispose suffit amplement et elle n'a aucune raison d'augmenter son potentiel nucléaire, absolument aucune. Non, après, il y a une part de jugement politique. On verra ce que dira le président élu en 2017. Vous savez, c'est l'arme du président. Hein, c'est pas pour rien qu'on a appelé notre bouquin « Le président et la bombe ».
Et même Jupiter à l'Élysée.
Jupiter à l'Élysée. Le président est tout puissant sous la Ve République, y compris sur le plan nucléaire. Si lui décide que, finalement, il pense qu'on peut dissuader tout le monde avec 50 armes, écoutez, ça sera son choix. Je pense que ça serait une erreur, mais ça serait son choix.
Oui. Jean Guinel, dans le prolongement de cette discussion, comment ça marche en France, particulièrement si le président veut avoir recours très rapidement à l'arme nucléaire? En lisant votre livre, il y a bien des mythes qui tombent. Hein. Expliquez-nous.
Surtout, ce qui est très important dans la question que vous posez, c'est que le président doit être capable de tirer l'arme nucléaire quand il le décide. C'est-à-dire que c'est lui qui le décide en fonction de ces éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'atteinte aux intérêts vitaux, et c'est lui qui décide quand on tire la bombe, quand les armées françaises tireraient la bombe, et contre quelle cible et dans quelles conditions. Tout le système qui existe aujourd'hui et qui représente en poids économique environ 10% du budget de la défense, un petit peu plus, tout ce système-là n'est mis en place et n'existe que pour permettre au président de prendre sa décision et de la faire exécuter, évidemment, dans les conditions extrêmement précises qu'il aurait décidées. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, et c'est déjà beaucoup. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ces armes-là, qui sont en service depuis maintenant un peu plus d'un demi-siècle, elles doivent, selon les gens qui sont chargés de les mettre en œuvre, elles doivent être modernisées, elles doivent être remplacées par des armes plus modernes, et d'ici quelques années, il faudra que le budget que la France consacre aux armes nucléaires, à condition que leur persistance soit décidée, il faudra que ces armes soient modernisées et ça coûtera beaucoup d'argent. Et donc c'est un point qu'il va falloir discuter.
Je vous remercie messieurs. Géopolitique continue. Juste après, un point d'information, on se retrouve.
Géopolitique,
Toufik Benaïchouch.
La guerre au XXIe siècle, comment se mène-t-elle? Comme précédemment ou pas, les technologies numériques, les robots, les drones, l'émergence de nouveaux ennemis également, et donc aussi de nouvelles stratégies modifient déjà la manière dont les hommes se font la guerre en ce moment. Pour répondre à ces questions, Bruno Tertrais, vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous publiez tout récemment « Le Président et la Bombe » aux éditions Odile Jacob, coécrit avec Jean Guinel, en fait une enquête passionnante sur les coulisses du pouvoir et dont le sous-titre est « Jupiter à l'Élysée ». Jean Guinel, vous êtes journaliste depuis 1972, vous êtes spécialisé dans les questions stratégiques et de sécurité. Vous êtes également l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur ces thèmes, auteur donc, je viens de le signaler, du Président et de la bombe avec Bruno Tertrais. Vous êtes spécialiste des questions militaires et de renseignement et vous êtes auditeur de l'Institut des Hautes Écoles de la Défense Nationale. Vous l'avez été de 99 à 2005, de même que vous avez été professeur associé à l'école militaire de Saint-Cyr. Et puis Olivier Kempf, vous êtes spécialiste, vous, de géopolitique et de stratégie. Vous dirigez la collection Cyberstratégie chez Economica. Vous suivez également les questions de stratégie générale et d'économie de défense. Vous enseignez la cyberstratégie à l'IRIS, à l'école de guerre et à l'IEP de Lille, et vous dirigez la lettre d'analyse stratégique, la Vigie. Alors messieurs, intéressons-nous, si vous le voulez bien, maintenant aux penseurs de la guerre, parce que cette activité humaine a fait l'objet d'études depuis l'Antiquité. Il y a des stratèges connus, hein, Sun Tzu, Clausewitz, une école réaliste aux États-Unis. Bruno Tertrais, peut-être vous pouvez nous
penser. Non, parce que la théorie ne m'intéresse pas beaucoup.
Alors on va s'adresser à Olivier Kempf. Tout en étant pratique, vous allez un peu vite là.
Non, je dirais simplement que je ne suis pas le meilleur spécialiste. Mais je suis certain que mes collègues Jean Guinel et Olivier Kempf auront des choses à dire.
Ça ne vous empêche pas de penser, c'est sûr, on est d'accord. Olivier Kempf alors.
Moi, alors, je ne suis pas du tout un spécialiste non plus de tous ces penseurs, mais, je vais essayer de relever le défi. Merci,
allez.
Bruno Tertrais.
Vous réglerez vos comptes tout à l'heure.
Oui, écoute. Tout va bien. Vous avez cité Sun Tzu, qui est très populaire, certes parce qu'il est ancien, surtout parce que ce sont des aphorismes que l'on peut interpréter un peu comme on veut. C'est un livre court à lire. Cela étant, aujourd'hui, c'est pas forcément très utile. Clausewitz, alors je passe sur Végès, sur Machiavel, enfin il y a eu tout un tas d'auteurs, j'allais dire de l'Antiquité à la période classique. Le grand saut a été celui de Clausewitz qui prend en compte, si on peut dire, le choc de la Révolution, plus que le choc de l'Empire, parce que le succès de Bonaparte, c'est d'abord la nation en armes, et c'est la fameuse expression de Clausewitz sur ce qu'il appelle la remarquable trinité, où il montre qu'à la guerre, il y a trois acteurs, que sont le stratège, c'est-à-dire le chef militaire, le décideur politique, et puis le peuple. Et cette trinité demeure, et c'est la fameuse formule, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, plus un certain nombre de considérations sur le déroulement de la guerre, le brouillard de la guerre, etc. Et donc Clausewitz a développé tout un appareil qui demeure très utile pour tous les types de conflits. Et c'est ça qui est intéressant, et là je renvoie une petite pique à Bruno Tertrais, qui connaît très bien l'adaptation et la lecture clausewitzienne de la stratégie nucléaire, qui a été faite par Raymond Aron notamment, et on arrive à, effectivement, tous ces penseurs du XXe siècle qui se sont portés, alors un peu sur la stratégie aérienne, et puis surtout sur la stratégie nucléaire, et on a eu énormément d'avancées théoriques, conceptuelles, mais très utiles pour nous permettre, malgré tout, de prendre des décisions, parce que ces conceptualisations, à la fin, c'est pas pour rien, et c'est pas juste un jeu de chambre et d'appartement, ça sert aussi à permettre, à prendre des décisions, des organisations, des choix capacitaires, à théoriser la façon dont on va, par exemple, engager l'arme nucléaire.
Alors Bruno Tertrais,
Bruno
Tertrais voudrait prendre la parole.
Pardon, non, je voulais pas interrompre Olivier Kempf. La grande différence entre le nucléaire et le reste, c'est que le nucléaire, c'est totalement théorique, justement. Puisque, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas eu de guerre nucléaire depuis 1945, ce qui permettait à certains stratèges civils de dire aux généraux les plus capés du Pentagone, mon général, j'ai conduit et j'ai mené autant de guerres nucléaires que vous, ce qui est vrai. Quand je dis que je ne suis pas intéressé par la théorie, c'était pas...
C'est une boutade, bien sûr.
Oui, mais à moitié. Plus on pratique la décision politique, plutôt on est proche, parce que je la pratique pas directement, de la décision décisions politiques, plus on est frappé de voir à quel point la décision politique, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est très éloignée de grandes réflexions théoriques que l'on voit dans les livres ou ailleurs. Donc je veux dire, moi c'est pas ce qui me passionne, mais je distinguerai, et là je pense qu'on se rejoindra avec Olivier, je distinguerai la théorie de la conceptualisation. La conceptualisation, c'est utile, c'est nécessaire. On ne communique pas, on ne structure pas, on ne programme pas sans des concepts, sans organiser tout simplement, sans organiser sa pensée. Donc je distinguerai un peu tout ça. Moi, la théorie militaire, je suis sûr qu'elle est passionnante sur le plan tactique et opérationnel, est nécessaire bien sûr pour les généraux et pour ceux qui font la guerre concrètement. Mais la grande théorie militaire, personnellement, c'est pas ce qui me passionne le plus, on va dire.
Olivier Kempf.
Alors, Bruno disait tout à fait justement tout à l'heure, je cite de mémoire, certes on n'emploie pas l'arme nucléaire, mais elle a une vraie utilité politique. Et cette utilité politique, elle est permise justement, alors théorie, concept, voilà typiquement le genre de débat intellectuel qui n'intéresse pas forcément vos éditeurs. Mais il y a une pensée derrière, et l'efficacité de l'arme nucléaire, particulièrement, elle est due justement à tout ce travail de penseurs, parlons de penseurs stratégiques, qui ont mis en place et qui ont présidé aux choix capacitaires que nous avons. Je veux dire, si on a par exemple deux composantes à la dissuasion aujourd'hui, c'est aussi parce que derrière on dit que c'est nécessaire stratégiquement pour telle et telle et telle raison et que ça aura tel et tel effet au cas où. Bien évidemment, mais ça a une signification politique.
Olivier Kempf, on arrive. Je vous redonne la parole dans vraiment 30 secondes, mais Bruno Tertrais voudrait encore intervenir.
Sur ce point, et pour le plaisir du débat, je ne résiste pas à rappeler que le général de Gaulle se moquait totalement de la théorie nucléaire, que tout ce que les stratèges français ont apporté, en fait, il n'y en a pas grand-chose qui est resté dans la réalité stratégique française, et que, en l'espèce, si on a deux composantes, c'est absolument pas pour des raisons théoriques, mais pour des raisons extrêmement pratiques. Mais je crois que ne parlons peut-être pas trop du nucléaire, sauf que, évidemment, c'est le cœur du bouquin qu'on a fait avec Guinel, mais oui. Je crois qu'il faut distinguer encore une fois, c'est ça l'essentiel, le nucléaire où tout par essence est théorique et le reste où malheureusement c'est très pratique et très concret, et peut-être la théorie a un petit peu moins d'intérêt.
En un mot, la théorie peut servir de boussole de manière générale, mais quand on fait la guerre, il faut corriger, et donc c'est le pragmatisme.
Elle permet d'expliquer a posteriori aussi, mais on ne conduit pas, la plupart des guerres ne sont pas conduites à partir de grandes réflexions théoriques.
Modèles théoriques, oui. Olivier Kempf, terminez votre pensée, excusez-moi.
Attendez, je reviens à ce que votre question initiale. Alors, racontez-moi les théoriciens. Donc je suis dans la théorie, de dire qu'ils sont forcément très utiles. Je pense qu'ils ont malgré tout une utilité et j'essaye de montrer l'histoire des débats. Alors après,
c'est très utile.
Bruno défendre pied à pied son jardin son jardin chéri.
Pas du tout, soyons sérieux, parce que moi je me fiche totalement de savoir si la France a plus de dissuasion demain, je m'intéresserai à autre chose. Je rassure Olivier Kempf sur ce point. Simplement, je remets un petit peu les pieds sur Terre. En l'espèce, un exemple a été donné. Les deux composantes françaises, je répète, je pense savoir à peu près de quoi il retourne, je pense que ça n'a rien à voir avec la théorie.
Olivier Kempf.
Donc, nous sommes au 21e siècle, et quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui et que les théoriciens, les concepteurs, les penseurs ou les analystes ou les observateurs, vous voyez, je fais toute la gradation, à quoi s'intéresse-t-il? On a eu, à la fin des années 90, début des années 2000, un débat sur la transformation, c'est-à-dire le rôle de la technologie, puis on est passé, après les attentats du 11 septembre, sur la question de la guerre asymétrique, c'est-à-dire les guerres irrégulières, comment réagir aux actions terroristes et aux opposants irréguliers que l'on pouvait avoir à droite et à gauche. Et puis plus récemment, les débats actuels, le débat stratégique actuel se fait sur des espèces de mélanges entre des stratégies, j'allais dire classiques, d'État utilisant des moyens durs, et puis des choses irrégulières, c'est ce que les Américains appellent récemment la guerre hybride, mais qui correspond à des idées développées ailleurs, par exemple par les Chinois avec un livre qui s'appelait La guerre hors limite, qui date de la fin des années 90 et qui montrait justement qu'il ne fallait pas se cantonner que aux militaires et qu'il fallait voir les à côté et que en fait les stratégies étaient totales.
Jean Guinel, est-ce que dans le monde actuel, il n'y a qu'à regarder ces dernières années, est-ce que quand on a un arsenal militaire puissant, y compris une bombe nucléaire, est-ce qu'on ne ressemble pas un petit peu, selon la formule de Christian Malice, un cow-boy qui veut tuer une guêpe, donc qui tire un peu partout, qui tue beaucoup de monde, et résultat inverse, donc c'est le monde qui se retourne contre vous?
Je crois que dans la période contemporaine, qui est celle dont on parle, puisque le titre de votre émission c'est la guerre au 21e siècle, et que ce 21e siècle n'est pas très âgé, Je crois qu'on est confronté, puisque nous parlons, nous sommes trois citoyens français qui parlons de notre pays, nous sommes confrontés à une situation stratégique extrêmement nouvelle, tout à fait inattendue, pas préparée. C'est ce qu'on peut appeler la guerre inattendue, puisque c'est vraiment une formule d'affrontement qu'on n'a pas connue. Un affrontement entre un moustique utilisant des moyens complètement, des moyens bricolés quasiment, c'est-à-dire détourner des engins ou des moyens civils pour en faire des armes, et puis une grande nation qui est extrêmement puissante, avec beaucoup d'armement, beaucoup de soldats, beaucoup de gens très bien formés. Et la question qui m'intéresse, c'est comment va-t-on sortir de cette situation, c'est-à-dire comment va-t-on faire en sorte que notre territoire retrouve la paix, la tranquillité, et ce dont je suis totalement convaincu, et je ne suis pas seul dans ce cas-là, c'est que la réponse à apporter à la crise que nous traversons en ce moment, elle est partiellement militaire, mais minoritairement militaire, c'est-à-dire les autres moyens qui seraient la diplomatie, l'action sociale, l'action politique, tout ce qu'on peut imaginer dans un environnement qu'il faut transformer, tout ça sera associé éventuellement aux armées. Mais les moyens militaires ou les actions militaires ne sont pas la réponse immédiate à quand des citoyens français qui ont bénéficié du même enseignement, du même environnement social que nous quatre, comment des gens dans des situations qui ne leur conviennent pas décident que leur rapport au monde, leur relation avec leurs contemporains consiste à prendre un camion pour foncer dans les foules ou des kalachnikovs pour aller tuer tous les gens qui sont dans une salle de concert ou des terrasses ou des dessinateurs dans un journal satirique. Donc moi, c'est ça ce problème-là qui me turlupine vraiment. Comment va-t-on sortir de ça? Je veux dire, le simple fait d'évoquer la question dans ces termes-là, c'est ce que les militaires les plus conscients disent aussi. C'est-à-dire, les moyens armés ne sont pas la réponse à cette situation.
Bruno Tertrain. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean, mais j'allais dire que c'est presque une évidence. En tout cas, parmi les gens qui comptent aujourd'hui, personne ne dit la solution est militaire. On est tous d'accord là-dessus. La question est de savoir...
Mais cette guerre-là, il faut inventer de nouveaux moyens de la mener pour la gagner.
Je ne suis pas sûr. Alors, d'abord, on peut effectivement, puisque votre émission est sur la guerre, dire un mot de cette fameuse expression « guerre contre le terrorisme », entre guillemets, avec ses ambiguïtés. Dès lors qu'on parle de guerre, c'est forcément un petit peu associé dans une partie de l'opinion à un aspect militaire. Peut-être qu'on encourage cette perception selon laquelle on centre les forces sur les aspects militaires, ce qui par ailleurs n'est pas vrai. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on emploie le mot guerre, c'est aussi pour mobiliser la nation et pour dire, attendez, c'est un combat qui concerne toute la nation. Et donc, c'est pour souligner la gravité des choses, si vous voulez. Donc, c'est guerre militaire ou guerre au sens métaphorique. Bien, une fois que ceci est posé, le vrai débat sur l'aspect militaire de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la guerre contre le terrorisme, c'est l'emploi de la force, l'emploi des armées sur le territoire national. Hein. C'est pas le fait de savoir si on va bombarder un peu plus ou un peu moins ou participer un peu plus ou un peu moins à la reprise de Mossoul. C'est important, je pense que le président de la République a raison de nous avoir engagés dans la lutte contre Daesh, y compris de manière très directe, mais le vrai débat aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est plutôt de savoir si la mobilisation considérable des forces terrestres sur le sol national en permanence dans ce qu'on appelle l'opération Sentinelle, est-ce que cette débauche de moyens, parce que moyens humains, financiers, etc., est une des réponses adaptées. Est-ce que c'est ça la meilleure moyen d'employer notre armée de terre sur le territoire national? C'est ça la vraie question quand on parle de guerre contre le terrorisme en termes militaires. Après, savoir si on envoie deux avions de plus ou deux avions de moins, un porte-avions en plus ou en moins dans le Golfe, c'est presque une question secondaire. En tout cas, ça ne doit pas être le cœur du sujet.
Olivier Kempf, votre avis sur cette question?
La notion de guerre, je rejoins ce que dit Bruno Tertrain, je crois qu'il y a deux théâtres. Qu'il y ait une réponse militaire en Irak-Syrie contre l'État islamique, après tout, il fait la guerre, c'est un ennemi qui a des positions, un territoire, et qu'il s'agit de réduire. Mais allons un peu plus loin. La vraie question, c'est celle du lien entre ce théâtre éloigné et puis le territoire national, qu'on appellera un théâtre intérieur. Plus on réduit l'empreinte de l'État islamique, plus son idéologie, parce que finalement, derrière, c'est d'abord une idéologie, plus il va vouloir essayer de se rabattre sur ses son idéologie, sa propagande et donc son expansion en dehors de son territoire actuel. Et donc, j'ai un peu l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que plus on réduit l'État islamique en Irak-Syrie, plus on va avoir des gens qui vont vouloir s'en sortir, qui vont vouloir revenir en France, des combattants étrangers qui vont revenir, qui vont vouloir répondre, et puis ceux qui ne peuvent pas rejoindre l'État islamique, eh ben, ils vont prendre des actions sur place. Donc, on a un espèce de lien finalement assez ambigu entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut arrêter de frapper l'État islamique en Irak-Syrie, mais il faut percevoir les liens entre les deux théâtres. Après, sur ce qu'on appelle un théâtre national, il faut bien l'appeler comme ceci, bien évidemment, la réponse ne peut pas être que militaire. C'est évident, d'autant plus que on voit bien que les ennemis, ceux qui font des attentats, sont de plus en plus des gens qui prennent des initiatives, conformément d'ailleurs à la propagande et aux instructions données par l'État islamique. Et donc, plus on aura du mal à détecter, si vous voulez, les passages à l'acte. Je crois que sur un théâtre intérieur, on est dans des postures de sécurité. Une posture de sécurité, on n'a jamais de sécurité à 100%. Et il y a eu beaucoup de critiques sur l'inefficacité de notre dispositif. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer tous les attentats que l'on a prévenu grâce au dispositif que l'on a. On ne voit que les gouttes qu'on a passées et pas éventuellement le raz-de-marée qu'on a contenu. Et là, on est dans une sorte d'impasse, d'impasse stratégique qui est extrêmement gênante et qui nous pose tous des problèmes.
Jean Guinel et Bruno Tertrais et Olivier Kempf viennent de le dire, les moyens militaires ne suffisent pas dans ce genre de guerre. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, à votre avis ?
D'abord, il faut un excellent renseignement. Il faut... visiblement transformer le mode d'observation de la population française pour détecter les prémices d'une action terroriste par des citoyens sur notre propre sol. Et puis, il faut aussi se faire à l'idée qu'on ne peut pas entourer nos villes de murailles en béton, parce que si on le fait, de toute façon, les actions viendront de l'intérieur des villes. Donc... il faut aussi apprendre à résister, il faut peut-être que nous, les médias, on s'interroge sur la manière dont on traite ces sujets, c'est-à-dire, j'ai pas de réponse à ça, mais on doit certainement réfléchir quand on voit des grandes télévisions qui diffusent des images abominables, qui sont exactement ce que demandent les commanditaires de telles opérations. On se dit qu'il y a besoin de penser aussi, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se mettre autour de la table et de se dire comment on répond collectivement, intelligemment, à ce type de menace, non pas seulement de menace, mais de réalisation.
Oui.
Voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on sorte du schéma politicien classique où chacun dit c'est la faute de l'autre. Et voilà, on n'en sortira pas comme ça.
Merci Jean Guinel. Bruno Tertrais, rapidement, est-ce que toutes ces difficultés, c'est pas parce qu'on a du mal à définir un ennemi? Avant, c'était clair, ou c'était ou l'Union soviétique, ou c'était ou l'hégémonisme chinois. Ces difficultés de gagner cette guerre, c'est pas parce que l'ennemi a changé?
Non, je ne crois pas.
Non,
je ne crois pas. On essaie de prévenir, peu importe le nom qu'on met sur l'ennemi, on essaie de prévenir des actes meurtriers. Hein. Donc c'est ça l'essentiel. On est d'accord sur ce qu'il faut prévenir. À partir du moment là, c'est l'essentiel et le débat sur nommer l'ennemi, à mon avis, est relativement secondaire. Mmh. Trois éléments dont aucun n'est militaire pour bien vous montrer qu'on n'est pas forcément dans la guerre au sens militaire du terme. D'abord, j'invite tous les auditeurs à jeter un coup d'œil sur ce qu'a dit la commission parlementaire d'enquête sur les événements du mois de novembre, qui dit des choses extrêmement intéressantes sur les choses qu'on n'a pas réglées en France sur l'organisation du renseignement, thème cher à Jean Guidel, mais qui me paraît extrêmement importante et intéressante. Deuxièmement, sur le plan idéologique, je crois que la France, avec ce qui s'est passé récemment, va être contrainte de franchir, et à mon avis c'est souhaitable, un cran de plus dans l'intolérance que nous devons avoir vis-à-vis de l'incitation à la haine et à la violence qui peut exister dans certains lieux de culte, autorisés ou non. Et troisièmement, sur un plan strictement tactique, alors là je crois on va pas se lancer là-dessus, c'est pas l'objet du débat, mais on va être obligé de réfléchir à des choses très simples, comme vous avez vu lorsqu'on était à Paris le 14 juillet, une attaque de type de ce que nous avons eu à Nice est, à mon avis, beaucoup moins probable que ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais. Maintenant, et je pense qu'on va être obligé, si on veut aussi éviter ce type d'attaque, de prendre des dispositions tactiques qui font que voilà, vous avez un triple barrage avec plusieurs couches avant toute manifestation de masse. Si les Français veulent qu'on puisse avoir une chance supplémentaire d'éviter un nouveau Nice, il va falloir en passer par là. Ou alors, on prend le risque.
Eh bien, merci messieurs. Géopolitique se termine. Merci d'avoir participé à ce débat. Nathalie Laporte et Véronique Durand nous ont aidés à réaliser cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.